de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal, soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Chers auditeurs du TIS du monde entier, voici la nouvelle samedi 15 février 2020. Nadim a invité les Nations Unies et les représentants étrangères à montrer Merdeka Belajar. Assister au 7e sommet d'Indonésie lutte pour l'accès au marché en Nouvelle-Zélande. Voici le bulletin complet. Le ministre indonésien de l'Éducation, de la Culture et de l'Enseignement supérieur, Nadiem Makarim, prévoit d'impliquer d'autres pays pour développer l'éducation en Indonésie. Il est convaincu que l'éducation indonésienne pourrait plus se développer. Si une coopération était menée avec d'autres parties, ces plans ont été révélés lorsque Nadiem a invité plus de 20 représentants des pays étrangers au ministère de l'Éducation et de la Culture, Jakarta, vendredi. Lors de la réunion, il a expliqué ses plans pour développer l'éducation pour les 5 prochaines années et il a brièvement présenté la politique de Merdeka Belajar qu'il avait planifiée. Il a dit que la politique a été élaborée parce que les étudiants doivent être capables de s'adapter afin de devenir des ressources humaines supérieures. Il est sûr que son programme peut bien fonctionner s'il s'accompagne d'une coopération avec diverses parties. Tant au pays qu'à l'étranger, sa réunion avec des représentants d'autres pays sous la forme d'un forum de discussion intitulé « Discussion avec les partenaires au développement sur l'orientation politique et la collaboration potentielle ». Les représentants des autres pays présents étaient l'ambassade de Finlande, l'ambassade de France, l'ambassade d'Irlande, l'ambassade du Japon, l'ambassade de Norvège, l'ambassade de Singapour, l'ambassade de Suède et l'ambassade de la République de Corée. L'Indonésie continue d'ouvrir l'accès à son marché d'exportation à la Nouvelle-Zélande pour accéder au marché du travail et des produits agricoles afin que les relations bilatérales continuent d'intensifier. C'est ce qu'a affirmé le directeur général des négociations commerciales internationales, Iman Pambagio, qui était le président de la délégation indonésienne lors de la 7e réunion des hauts fonctionnaires sur le cadre du commerce et des investissements ou SOMTIF à Wellington en Nouvelle-Zélande. Cela a été dit par Iman lors de la déclaration à Jakarta vendredi. Selon lui, outre la question de l'accès au marché de la main d'œuvre et de l'agriculture, l'Indonésie a également invité des investisseurs néo-zélandais en Indonésie dans les secteurs de l'élevage, le tourisme, l'enseignement professionnel et supérieur et la culture, l'économie créative. La coopération qui est offerte dans le secteur de l'économie créative sont entre autres le cinéma et l'animation. Iman a ajouté que les questions soulevées par la délégation indonésienne à la réunion de SOMTIF étaient conformes à la vision du président Jokowi de développer les ressources humaines et d'améliorer les performances à l'exportation, y compris vers la Nouvelle-Zélande. Les investisseurs du Canada explorent la coopération dans l'effort Fizank a développé des destinations touristiques dans les régions de Loumadian en visitant l'objet touristique la cascade Tumparseu. L'équipe de Federal Aviation Administration FAA, Order Investor du Canada, composée de Paul Hamel, Jan Setter et Rose Marsolet, avec le Conseil régional de coordination pour la région de Jember, ont visité la cascade Tumparseu. C'est ce qu'a déclaré le chef du Conseil régional de coordination pour la région de Jember, Cahyo Widodo, dans un communiqué de presse reçu par Antara jeudi. Un investisseur canadien, Paul Hamel, a déclaré que sa partie faciliterait la mise à disposition d'un télépérique. La cascade Tumparseu est située dans le ruisseau de la rivière Glidic qui bascule sur le mont Semeru et se trouve dans une vallée escarpée s'attendant à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer qui a une formation unique car elle a un large débit d'eau comme un rideau. Le vice-gouverneur de la Sulawesi du Nord, Stephen Kando, a déclaré que 300 investisseurs étaient prêts à investir dans la zone économique spéciale de Bitou. Le vice-gouverneur Stephen Kando, lors d'accepter la visite de l'agence budgétaire du Parlement indonésien à Mandalo, a déclaré que le potentiel de cette région était grand pour encourager la croissance économique. Bien qu'elle ait un grand potentiel, la zone économique spéciale de Bitou a également des obstacles liés à la solution de l'acquisition des terres. Le vice-gouverneur espère que les obstacles rencontrés liés à la zone économique spéciale de Bitou pourront être combattus par le Parlement indonésien au gouvernement central. Le dernier, le secteur du tourisme est l'une des ressources de devises étrangères non pétrolières et gazières. Prometteuse et un grand potentiel pour l'Indonésie. Pour atteindre l'objectif de 17 millions de touristes étrangers en visite 2020, l'Association des agents de voyage et tour opérateurs indonésiens ACITA organisera le salon ACITA Wise Travel Fair 2020 du 3 au 5 avril. Lors d'une conférence de presse d'une exposition sur le voyage en 2020 à Jakarta, mercredi 12 février, le vice-ministre de Tourisme et de l'Économie créative, Angela Tanusudibio, a déclaré que le gouvernement continuait de superviser le tourisme et l'économie créative de l'Indonésie au moment de la menace d'une épidémie de coronavirus. Nous veillons à ce que le calendrier des événements se poursuive, en particulier ceux à l'échelle internationale qui peuvent inviter les médias étrangers à voir l'état actuel de l'Indonésie qui est sûr et peut-être visité. Nous continuons d'encourager les voyages intérieurs. De plus, nous ouvrirons également de nouvelles routes internationales. Car comme nous le savons, si ce virus continue d'avoir un impact permanent, nous devons trouver de nouvelles routes. Le sous-ministre Angela Tanusudibio a également déclaré que depuis 2018, 303 millions de voyages ont été effectués et que tout continuerait d'être amélioré. Angela a également apprécié l'ACITA concernant l'organisation de la foire du voyage ACITA pour stimuler le tourisme indonésien au milieu de la menace du coronavirus. Sur la base de communiqués de presse de l'ACITA, lors du salon de voyage d'avril 2020, l'ACITA portera le concept d'entreprise à l'entreprise et d'entreprise à client, avec les objectifs de visiter environ 20 000 personnes chaque jour. L'ACITA coopère avec des compagnies aériennes nationales et étrangères, des hôtels, des agents de voyage, des offices et du tourisme de 34 provinces et des ambassadeurs de pays amis pour réussir la grande activité touristique indonésienne cette année. C'est sur l'Itodity, c'était la nouvelle aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Merak, Banten, pour présenter le nouveau visage du Terminal Eksekutif Merak Bakauheni, ASDP Indonesia Ferry, organisé le Festival Heartbeat 2020. Cet événement est une activité artistique qui peut être appréciée par les résidents de Jakarta et des environs,
Le Them Memory Harbor est tiré du nom de la peinture de Jack B. Yeats d'Irlande sur les vieux souvenirs des passagers du navire. Le festival Harbor s'adresse à tous les âges et est conçu pour être une activité familiale. La série du festival Harbor a commencé avec une exposition d'art visuel dans les espaces publics dans le terminal exécutif Sosoro Merak et le terminal exécutif du pavillon Agung Bakauheni du 21 décembre 2019 au 21 février 2020. Cette exposition de beaux-arts présente des œuvres qui reflètent l'art et la culture Lampung. Cependant, le point culminant du festival Heartburn Night s'est tenu le 15 février 2020 sur le toit du terminal exécutif du Grand Pavillon de Bakauheni, Lampung, et a été animé par divers programmes intéressants, notamment le cinéma Heartburn, Video Mapping Heartburn, le Music et Culinaire Heartburn. Ensuite, l'info de Garut, Java West. Des dizaines de pierres de taille et de forme unique ont été retrouvées, enfouies dans le sol dans la zone touristique Batu Mahpar, district Lewisari, région Tasikmalaya, Java West. L'employé de la destination touristique Batu Mahpar, Nais Siti Nuraisyah, mardi dernier à Tasikmalaya a déclaré que les roches se sont formés naturellement, même avant l'ouverture de la destination touristique, un certain nombre de pierres avaient été trouvées. Naïs a dit qu'il y avait des roches qui ont été excavées sous la forme d'humains nains, de singes, de Ganesha, d'outils de cuisine de l'Antiquité et d'autres formes. Le plan, les découvertes seront stockées dans un musée, ainsi que d'autres objets anciens qui seront bientôt inaugurés. La dernière info est venue d'Indramayu, Java West. Un total de 58 280 vétivers a été planté mercredi 12 février sur le talus de la rivière Cimanuk dans la région Indramayu, Java West, pour anticiper la survenue de glissements de terrain susceptibles de provoquer des inondations dans la région. Le chef de l'Agence régionale de gestion des catastrophes de la région Indramayu, Edi Kusdiana, à Indramayu a déclaré mercredi que le nombre de vétivers plantés cette fois était de 58 280 tiges impliquant des agences telles que l'armée, la police et la communauté. Selon Edi, son parti continuera de planter de l'herbe à plusieurs endroits sujets au glissement de terrain. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 15 février. Le 15 février 1958, la formation du gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie. Le gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie, généralement appelé PRRI, était l'un des mouvements d'opposition entre le gouvernement régional et le gouvernement central Jakarta, qui a été déclaré le 15 février 1958 avec un ultimatum du conseil de lutte dirigé par le lieutenant-colonel Ahmad Hussein à Padang, Sumatra-Ouest, l'Indonésie. Ce mouvement a reçu des remarques des régions de Sulawesi Nord et de Sulawesi Central où, le 17 février 1958, la région a déclaré qu'elle soutenait le PRRI. Ce conflit a été fortement influencé par les demandes de mise en œuvre d'une autonomie régionale plus large. L'ultimatum n'est pas une demande de formation d'un nouvel État ou une rébellion, mais plutôt une protestation sur la manière dont la Constitution est appliquée. Le 15 février 1989, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan. Les forces soviétiques sont arrivées pour la première fois en Afghanistan le 25 décembre 1979 et le dernier retrait des troupes a eu lieu le 2 février 1989. L'Union soviétique a ensuite annoncé que toutes ses forces avait été retiré d'Afghanistan le 15 février 1989 en raison des nombreux coûts et difficultés inutiles de ce conflit. La guerre soviéto-afghane est souvent considérée comme la guerre de Vietnam de l'Union soviétique. Le 15 février 2003, manifestation anti-guerre en Irak. La manifestation a eu lieu le 15 février 2003 et a réuni 600 villes du monde entier, comptant au moins 10 millions de manifestants. Cette manifestation est entrée dans le Guinness World Records en tant que plus grande manifestation anti-guerre dans l'histoire. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Mungkin kata
C'était la chanson intitulée Salam Semata, qui signifie Salutations seulement, chantée par Benin. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie. Et en titre, le gouvernement cherche des incitations pour que les compagnies aériennes survivent au milieu de l'épidémie Corona. Le ministère des Transports prépare un programme pour inciter les compagnies aériennes à survivre au milieu des effets de l'épidémie de virus Corona. Comme l'a déclaré le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, après une réunion avec le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Wisnutama Kusubandio, et les opérateurs de vol à Jakarta, mercredi. Budi Karya espère qu'avec cette politique, l'aviation et l'hospitalité pourront survivre. Budi Karya ne veut pas que les compagnies aériennes et les employés de l'hôtel soient licenciés comme en Chine. Les incitations sont conformes à la directive du président Joko Widodo, y compris la réduction de l'obligation des compagnies aériennes de déposer des revenus non fiscaux de l'État et la réduction des redevances d'atterrissage. Selon Budi Karya, les exploitants d'aéroports, les compagnies aériennes et l'hospitalité doivent fournir des incitations. En plus d'ouvrir des incitations, le ministère des Transports fournira également des installations et des tarifs réduits à trois destinations visitées par les touristes chinois, telles que Bali, Manado et les îles Riau. L'incitation est faite pour que les tarifs d'avion deviennent moins chers afin que les gens aient toujours envie de prendre des vacances. En outre, le gouvernement encouragera la mise en œuvre d'activités dans la destination touristique afin que ces zones restent surpeuplées. Concernant la réduction de 30% de la fréquence de vol à destination de la Chine, le ministère des Transports a détourné des vols vers l'Asie du Sud, comme le Pakistan, le Bangladesh et d'autres. Pour cette raison, le gouvernement a demandé aux compagnies aériennes Garuda, Batik Air, Lion Air et Air Asia de rechercher une connectivité avec l'Asie occidentale. Cependant, Budi a affirmé qu'il n'y avait pas de réduction de fréquence pour les expéditions de fret via des navires à destination et en provenance de la Chine. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Pasti. Do do da di da. Nangis lang menghira. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Toudi, dont le titre est Melayang, qui signifie voler. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel, visitant la plage Sambolo à Anyer, en Provence, Banten. Ce tourisme balnéaire est situé dans la banque côtière d'Anyer, dans la province Banten, précisément sur l'autoroute Karangbolong Cinangka, pas trop loin de Jakarta, à seulement 30 minutes environ de la sortie de péage de Cilegon Barat. Pour que vous partez de Jakarta, vous restez à travers le péage Tangerang Merak et sortez au péage de Cilegon Barat, puis suivez les indications routières pour vous rendre à la plage Sambolo. Le long de la route d'Anyer jusqu'à la plage Sambolo, vous passerez une assez grande zone industrielle. À l'intérieur se trouve la plus grande usine de fusion d'acier en Indonésie, PT Krakatau Steel. Si vous avez passé la zone industrielle, cela signifie que vous arriverez bientôt à la plage Sambolo. Après être arrivé à la plage Sambolo, vous pourrez profiter de belles vues sur la plage. Lorsque vous arrivez à la plage le matin, vous aurez une vue sur le lever du soleil. Bien que l'émergence de l'arrière de la plage met la beauté de la réflexion de la lumière au lever du soleil qui a recouvert la plage Sambolo est souvent considérée comme le paradis de la région Anyer. De plus, l'eau de mer est claire, comme si vous tiriez les mains pour nager sur cette plage. Sambolo est également supérieur avec sa plage en pente qui est propre et exempte de corail. Il est donc sûr de l'utiliser comme une aire de jeu, en particulier pour les enfants, parce que l'emplacement de la plage Sambolo est juste à l'ouest de Banten. Vous pouvez également voir la magnifique vue du coucher de soleil. Pour le moment, la plage Sambolo est devenue une destination balnéaire bondée de touristes. Néanmoins, la beauté de la plage est maintenue. Pour entrer dans la zone de la plage Sambolo, on doit payer 10 000 rupiahs par personne. Après avoir joué, détendez-vous et profitez de la beauté de la plage Sambolo. Pour ceux d'entre vous qui ont un passe-temps culinaire sur cette plage, vous pourrez également déguster des fruits de mer qui vous secoueront sûrement la langue. Pour les souvenirs, vous n'avez pas à vous inquiéter, car il existe également de nombreux petits magasins qui vendent des accessoires ou des souvenirs fabriqués par les résidents locaux. Si vous voulez toujours passer du temps sur la plage Sambolo, vous pouvez également passer la nuit à l'auberge située le long de la zone Anyer, à une variété de prix. Si vous êtes en Indonésie, à Jakarta, et que vous souhaitez vous détendre pour échapper à la routine, la plage Sambolo peut être votre destination touristique. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
C'était la chanson de The Cinnamons, dont le titre est Selamanya Cinta, qui signifie l'amour pour toujours. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en beau titre. L'application des enfants de la nation CLU ont remporté un prix international. L'application CLU a remporté le prix de la meilleure startup IoT à ASEAN Rice Bowl Startup Awards 2019 à Sasana Kijang, Kuala Lumpur, Malaisie, début février. CLU est une application intégrée à Jakarta Smart City sous la forme de médias sociaux qui invite le public à signaler les plantes et à prendre soin de l'environnement. Avec cette application, les résidents de Jakarta peuvent signaler des plantes concernant les conditions environnementales telles que les ordures, les inondations, la congestion, les routes endommagées, les incendies et autres. De plus, chaque rapport peut être surveillé sur les progrès réalisés pour s'assurer que toutes les plantes soumises sont suivies. Le chef de la direction PDG de CLU, Rama Raditya, a expliqué que depuis la première création de CLU, CLU a toujours fourni des solutions technologiques pour soutenir les écosystèmes Smart City basés sur les intelligences artificielles, IA, l'Internet des objets, IoT, et la main-d'œuvre mobile, ce qui est censé aider les citoyens, le gouvernement et les hommes d'affaires à travailler plus efficacement. Elle a expliqué que CLU avait été actif dans un certain nombre de pays tels que Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, Taipei, l'Espagne et plusieurs autres pays européens. Rama est optimiste quant au fait que CLU puisse continuer à étendre son aide commercial à travers le monde. Ce prix augmente également l'évolutivité de CLU pour entrer sur le marché international qui représentera l'Indonésie et l'ASEAN au niveau mondial. Cependant, Hamdi Mohtar, président de ASEAN Rice Bowl Startup Awards et de New Entrepreneurs Foundation, a expliqué la raison pour laquelle il avait décerné un prix à CLU parce qu'une telle application avait réussi à développer l'écosystème de la ville intelligente. Selon lui, CLU n'a pas cessé d'innover à partir de l'application de reporting communautaire ainsi que d'être le fournisseur le plus complet d'écosystème de ville intelligente en Indonésie et dans l'ASEAN. Il espère que CLU pourra continuer de représenter l'Indonésie et l'ASEAN à Global Startup Awards pour rivaliser avec diverses autres startups du monde entier. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Madou dan Racun, ou en français Miel et Poison, chantée par Trinity. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français La foudre.
Meskipun hujan,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.it.